Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer ou découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et qui construisent le monde de l'art de demain. Elles sont artistes, journalistes, chefs d'entreprise ou encore étudiantes et sont toutes animées par la même vocation, faire du monde de l'art un endroit meilleur. À ce micro, elles nous partagent leurs bonnes expériences comme les moins bonnes, leurs conseils et le mindset qui font les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Parallèlement au podcast, j'accompagne des artistes et des entreprises du secteur de l'art dans leur communication et la réalisation de leurs projets. Vous trouverez davantage d'informations dans mon Linktree en note du podcast. Aujourd'hui, je reçois Léna et Perla, les cofondatrices du média La Perle. Tout a commencé en 2018, lorsque Perla était étudiante à l'école du Louvre. Elle rédigeait un blog art et culture dans l'idée de rendre ce domaine plus accessible, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Léna, fraîchement diplômée en stratégie digitale. Ensemble, elles saisissent le potentiel de La Perle et challengent le projet pour l'emmener plus loin. Elles deviennent alors associées et travaillent aujourd'hui d'arrache-pied pour développer leurs médias. Je les laisse vous raconter leur histoire. Bonne écoute. Bonjour Léna et Perla, comment allez-vous?
Ça va.
Salut.
Très bien.
Bah, je suis super contente qu'on ait l'occasion de faire cet épisode toutes les trois en plus. Donc vous êtes toutes les deux les fondatrices de La Perle, donc un média sur l'art, la culture, les actualités de ce domaine. Et vous êtes aussi des entrepreneurs hyper dynamiques, pétillantes. Donc je sais que vous allez donner plein d'énergie aux éditeurs et auditrices. J'en avais un petit peu marre de faire des présentations comme ça, bateau. Je vais vous inviter à parler un peu de qui vous étiez, au tout début, l'enfant que vous étiez, et me dire quel métier, ou en tout cas, quelle vision vous aviez de vous pour le futur quand vous étiez enfant.
Bah, moi, je sais que j'ai toujours... d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été très littéraire. Mmh. Donc, quand j'étais petite, Le triptyque, c'était je voulais être écrivaine, journaliste et poète. Puis voilà, je me suis toujours un peu confortée dans cette identité-là d'écriture. Voilà, j'aimais bien jouer à ça quand j'étais petite. Et puis au fil du temps, c'est un peu le chemin que j'ai poursuivi au fil de mon lycée, puis de mes études supérieures. J'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait des études d'histoire de l'art et puis j'ai fait des études de journalisme, voilà. Donc, je crois que je suis assez dans mon axe, assez alignée.
On dirait.
Et voilà.
Et toi, Léna?
Alors, moi, quand j'étais enfant, mon rêve, c'était d'être actrice de cinéma et aussi de théâtre. Ou alors humoriste, mais j'étais pas très drôle, du coup, je suis devenue entrepreneur.
Je comprends.
Non, ouais, j'avais énormément d'énergie. J'étais très là-dessus, quoi. Genre, je me voyais pas du tout travailler dans un bureau. En tout cas, quand j'étais enfant, quoi.
Et là, c'est pas trop le cas.
Mais oui, il y a
une partie bureau, mais vous avez vraiment une partie terrain.
Parce que
c'est vous qui faites la plupart des articles de La Perle, qui allez sur le terrain.
Complètement. Et après, pour le coup, mon parcours, ça a été lycée, voie ES. La voie un peu de je sais pas trop, je suis pas très bonne en maths. J'écris encore avec un peu des fautes d'orthographe, du coup, je choisis ES. Non, du coup, ES. Et après, j'ai fait des études qui m'ont pour le coup passionnée. Et c'était dans la stratégie d'entreprise et j'ai retrouvé vraiment pour le coup cette fibre artistique qu'il y avait aussi dans ma vocation initiale. Du coup, j'ai fait 5 ans d'études dans une école qui s'appelle la Web School Factory, qui est une école géniale parce que initialement pas très scolaire, c'est une école qui te confronte dès le début au mode projet et problématique d'entreprise. Donc dès la première année, on avait la moitié de notre année pour travailler avec des entreprises en projet. Ça, c'était passionnant. Donc, en fait, dès le début, j'étais toujours en représentation, j'étais toujours avec des gens. Et donc, c'était génial. J'ai choisi une spécialité, du coup, dans le marketing et dans vraiment le pitch d'entreprise. Donc, j'ai aidé des startups aussi à développer leurs projets, à écrire des pitchs, à se vendre à des business angels. Donc, c'était vraiment du marketing pur, avec plein d'entreprises différentes, que ce soit de la cosmétique, du sport, mais jamais au niveau culturel. Pour le coup, j'avais jamais bossé dans le secteur culturel. Et la vie m'a amenée au fur et à mesure, en travaillant. J'ai voyagé aussi pendant 2 ans, durant mes études. Et après aussi, j'ai fait une année de césure. J'ai travaillé dans le monde de la publicité chez Publicis pendant une bonne année, où j'ai exploré du coup exactement ce que je faisais déjà initialement à l'école, mais cette fois-ci à une autre échelle. Donc, pour la publicité, où c'était toujours beaucoup de théâtre, parce qu'en fait, on est sans arrêt en train de vendre des idées. On est aussi, donc j'étais chef de projet, donc je devais traduire les briefs et toujours travailler en interne avec tout le monde. Donc, quand on parle à un designer, on ne parle pas de la même façon qu'avec un développeur, qu'avec ceux qui vont faire du planning stratégique, avec aussi les clients. Donc, j'adorais, moi, cette effervescence. Pour le coup, ça a marché chez moi. Cette histoire de l'agence de publicité où on dit d'ailleurs que c'est les meilleures écoles parce que t'es sans arrêt dans le jus, t'as plein de clients différents et ton but c'est de vendre des choses et que ça soit bien réceptionné. Après j'ai travaillé dans une agence web. Le Covid c'était pendant que je travaillais dans une agence web, donc là c'était beaucoup plus geek. Je faisais du référencement web sur des moteurs de recherche asiatiques, donc vraiment niche. C'était de l'ordinateur toute la journée. Et là, c'est là où j'ai eu le premier pincement où je me disais, je ne suis pas du tout à ma place. Je n'ai aucun sens dans mes journées. Je ne sais pas pourquoi je me réveille le matin. Et donc, le Covid, bah, pour le coup, ça m'a un peu aidée parce que le fait d'être confinée, j'étais genre trop contente de ne plus aller travailler. Et c'est là que je me suis dit, OK, dès que mon contrat s'arrête, j'essaye de ne pas le renouveler et on verra. Et je veux retourner dans le monde publicitaire ou du moins de l'agence. Je voulais retourner dans cette effervescence-là, retrouver mes marques et ce que j'aimais faire. Et deuxième confinement, donc ce qui a tout perturbé, je devais intégrer pour le coup un média au brand content, donc c'est la partie qui, donc pas du tout la partie journalistique, le brand content c'est la partie qui sert à financer un média, donc tout ce qui est publicité, partenariat, donc c'est littéralement une micro-agence de pub dans une entreprise, mais on ne travaille pas du tout en fait à la partie éditoriale. C'est hyper important aussi de le différencier. J'insiste parce que c'est un peu
important pour la suite.
En fait, c'est de la publicité intégrée à du contenu. Donc, on va un peu copier ce que fait la partie édito et l'intégrer totalement à la publicité.
Dans tous les cas, c'est cadré et mentionné, en fait.
D'accord. Exactement. Pendant cette fameuse année où je travaillais dans cette entreprise d'agence web où je m'ennuyais, j'avais toujours quand même un petit pied dans le monde de l'art parce que ça a toujours été un secteur qui m'intriguait, qui me passionnait un petit peu parce que j'adorais le théâtre, j'adorais aller au cinéma, j'avais envie de sortir, mais je ressentais à l'époque ce manque-là d'informations. Je ne savais pas où aller pour m'informer, pour pouvoir savoir quelle exposition ça allait me plaire. Je ne savais pas que rentrer dans une galerie, c'était gratuit. Donc, initialement, j'étais littéralement une non-initiée qui était en manque d'informations culturelles. Et c'est là que j'ai, moi, pour le coup, commencé à lire La Perle, à l'époque où La Perle n'était qu'un blog, et c'était La Perle qui m'aiguillait, en tout cas, sur la compréhension de ce qui pouvait se passer, et j'étais aussi rentrée en contact avec Perla, et ensuite, donc au début, on faisait juste des sorties culturelles ensemble.
On se connaissait un peu avant,
ouais.
D'accord.
Mais, et d'ailleurs, c'est de là qu'elle me suivait, on s'était rencontrés, on a animé, en fait, dans le même mouvement de jeunesse quand on était jeune, ado.
C'était un organisme de BAFA.
Voilà. Mmh. Et puis on se croisait, on avait des amis en commun et tout, donc on se suivait sur Instagram, Facebook, un peu comme tout le monde. Et moi, je partageais de temps en temps les billets que j'écrivais sur La Perle, qui était donc un blog. Mais elle tombait dessus de temps en temps, et puis à un moment, bah, suite de ton histoire.
Oui, bah alors, et à un moment, moi j'étais dans cette fameuse transition-là, donc ouais. Je venais de finir mon ancien job, je touchais le chômage, donc j'étais entre guillemets à l'abri financièrement, et en plus j'avais la perspective de mon nouveau travail qui allait démarrer le jour où on allait y voir plus clair sur cette situation sanitaire. Donc ça m'allait de, pour le moment, faire des sorties culturelles, et vraiment j'apprenais une tonne, et c'est parce que j'ai rencontré Perla qu'elle m'a aussi communiqué sa passion, et qu'elle m'a expliqué aussi comment fonctionnait ce secteur culturel qui est juste énormissime, où il y a tellement de catégories différentes, c'est au niveau des institutions, au niveau du marché de l'art, au niveau des artistes, au niveau des ateliers, enfin des fondations.
Aussi, ouais.
C'était hyper intéressant et c'est vrai que ça m'amusait, je m'y suis encore plus intéressée et de fil en aiguille, parfois je l'aidais. Moi j'avais un peu que ça à faire, donc je disais, bah, il est ton site, il est super, mais c'est vrai que peut-être que tu devrais bosser un peu le référencement web. Le référencement, c'est hyper important. Voilà, quand on tape le nom d'une exposition, ça serait chouette que ton article arrive en premier, étant donné que, bah, pour le coup, il est accessible. Moi, je le comprends, contrairement à d'autres articles qui sont soit payants, soit pas différents. Et donc, ça a commencé comme ça, où on se voyait parce qu'on s'appréciait, on faisait des sorties culturelles, et de temps en temps, bah, on bossait un petit peu sur La Perle, mais pour le fun, quoi. Moi, ça ne me demandait pas un travail énorme, et ça aidait quelqu'un qui avait un super projet.
Ok, je ne savais pas que c'était ça votre première
collab. Ah, initialement, c'est ça.
Informel.
Ouais, complètement.
Moi, donc, je te dis, j'ai toujours fait des études un peu littéraires. J'étais en prépa Cagnes. Mmh. J'ai passé les concours pour Normale Sup. Et alors, évidemment, j'ai pas eu Normale Sup, mais j'ai eu l'école du Louvre. Mmh. Donc, j'ai entamé des études d'histoire de l'art. J'y suis restée pendant 3 ans. Et en fait, je me suis spécialisée en art contemporain. C'est important. Parce que je détestais l'art contemporain, ou du moins, je croyais le détester en me disant... Bon, d'accord.
Donc, tu détestais
je détestais parce que je me disais, bon voilà, j'ai pas d'autre mot qui me vient, je suis désolée, c'est de la masturbation intellectuelle, ça sert à rien. Moi aussi, j'avais tous les clichés un peu en tête, ouais. Mais j'avais quand même cette idée de se dire, bon, j'entre dans une bonne école d'histoire de l'art et il y a une spécialité art contemporain, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à creuser, donc je me suis spécialisée. Et en fait, cette spécialité, ça a été un vrai bouleversement pour moi parce que ça a complètement ouvert le champ de l'art, de l'histoire de l'art, de ma perception en fait de l'art et de la culture. Et en fait, ça m'a poussée pendant mes études à créer un petit site web, un blog d'actualité culturelle où j'écrivais de temps en temps des petits billets sur les expositions où je parlais d'art contemporain sur un ton que je voulais accessible. Parce que j'avais envie que mes amis qui connaissent pas du tout le monde de l'art s'y intéressent et le lisent. Ce que j'ai fait, et en fait, je me suis vraiment prise au jeu, quoi. J'ai vraiment aimé faire ça. Au fil du temps, en fait, je l'ai été un petit peu dépassée par l'ambition que j'avais pour ce projet. Et je me suis dit, je vais essayer de couvrir, faire des vernissages presse, etc. Donc j'ai commencé, voilà, je me suis créé un petit réseau, j'ai commencé à envoyer des mails, etc. Et les portes, en fait, de la presse culturelle se sont assez facilement ouvertes. Mmh. Je pensais que ça serait plus difficile. Je pense aussi que c'était la période où les influenceurs et les influenceuses culturelles se développaient beaucoup. Et donc, du coup, les musées voyaient un intérêt à laisser entrer ce genre de public-là. Et donc, du coup, j'ai commencé à couvrir l'actualité culturelle, les expositions. Ensuite, je me suis dit que j'avais envie de faire des interviews, je me suis dit que j'avais envie de parler de cinéma. Donc, voilà, j'ai développé le blog jusqu'à la fin de mes études. Et justement, à la fin de mes études, j'ai obtenu je suis allée jusqu'au Master 1 à l'École du Louvre. Et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en fait... Le fait d'écrire, je me suis rendu compte que, au-delà de mon intérêt pour la culture, depuis toujours, j'avais vraiment envie d'être journaliste. Et pas seulement journaliste culturel. Et c'est à ce moment-là, en fait, donc il y a eu une sorte de... Voilà, les étoiles se sont alignées. C'est à ce moment-là qu'avec Léna, on a commencé à faire des expos, à se voir de temps en temps et tout. Et puis, c'est ce moment-là où je me suis dit, allez, je vais préparer les concours pour les écoles de journalisme. Léna... Et progressivement rentrée dans le projet, parfois on se parlait, parfois elle m'aidait pour le référencement. Elle essayait de cadrer un petit peu le projet. Moi, je lui disais que j'avais une envie de média. Elle avait un intérêt, une expérience que je n'avais pas. Et vraiment, les étoiles se sont alignées et on a commencé progressivement à travailler ensemble. Et donc, en fait, j'ai préparé les concours et j'ai eu une école de journalisme. Et on va dire que ouais, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à travailler ensemble comme des associés. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'étais prête à effectivement laisser entrer une seconde personne dans l'aventure, mais dans la mesure où en fait le projet prenait un tournant, c'était plus un blog, on avait envie d'en faire un média à part entière avec une ligne éditoriale claire d'accessibilité.
Ça s'est fait hyper naturellement. Puis au fil du temps, je ne travaillais plus du tout... de temps en temps, c'est-à-dire que tous les jours, on s'appelait, on se voyait, on débriefait, on a vécu...
On s'embrouillait aussi beaucoup.
Énormément, mais je pense que... Moi, j'ai été vachement admirative de Perla à ce niveau-là quand, dans le métro, elle m'avait dit ce qu'elle racontait sur l'art contemporain, comme quoi, initialement, elle n'aime pas ça. Et je me disais, mais il faut être quand même docteur pour se spécialiser. Et je trouvais ça génial, en fait. Elle m'impressionnait un peu là-dessus, en mode, ok, c'est très drôle. Elle a poussé le truc pour essayer de le comprendre, en fait.
C'est un peu le truc Think Different, et puis la curiosité, quoi.
Ça, ouais, c'est c'est pour ça que je suis vraiment une passionnée d'art, mais vraiment, mon intérêt premier, c'est vraiment le journalisme, parce que je pense vraiment qu'il y a cette curiosité d'aller vers... ce qui va pas forcément m'attirer, ce qui va pas forcément m'intéresser, mais comprendre pourquoi ça intéresse des gens.
T'étais déjà dans cette démarche.
J'ai toujours été dans cette démarche-là.
C'est exactement ça.
Et puis, bah, à ce moment-là, quand moi, vraiment, je suis rentrée donc, au CELSA, faut quand même le citer, je suis rentrée au CELSA, qui est une école de journalisme à Paris, bah, voilà, avec Léna, on a vraiment commencé à bosser ensemble, comme des associés.
Parce que tout s'est fait au bon moment.
Avec une stratégie claire, à s'appeler régulièrement, à faire des réunions, à décider de ce qu'on voulait publier, comment on voulait le publier. Et là, on est rentré un peu dans cette période où on allait déterminer ce qu'on voulait pour notre média, parce que c'était notre média à partir de maintenant.
Au final, le fameux, enfin, mon taf, ça ne s'est jamais fait, parce que la vie a fait que avec les reconfinements, etc. C'était particulier. J'en avais marre d'attendre, je suis une nature avec beaucoup d'énergie, je ne supporte pas rien. Oui, c'est ça. J'avais du mal à un peu rien faire tous les jours. Et en fait, c'était tellement une évidence. J'avais tellement envie de travailler avec Perla sur ce projet que le jour où on s'est un peu regardé en mode « bon, on fait quoi ?» c'est vrai que c'était... Enfin, je ne me voyais pas du tout du jour au lendemain lâcher un peu le truc et me dire « bon, non, je vais chercher un autre taf. » Et puis c'était cool de bosser avec toi pendant 6 mois. Quoi.
T'as suivi ton cœur aussi.
C'était hyper intéressant aussi de se dire « ok, on y va. » On a toutes les deux très envie d'y aller. Sauf que là, c'est un autre délire. On oublie aussi le projet passion, on s'aide, on rigole, on va faire des expos. On investit vraiment du temps, on s'associe. Le but, c'est de créer une entreprise. Donc, on y va. Et là, du coup, c'était encore mieux parce qu'on a vraiment passé un step. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai vu encore plus m'investir, ramener toutes mes compétences de création d'entreprise en tant que telle. Ce que j'ai obligé de dire aussi dans ma formation, c'est qu'à la Web School, dès le début, il y a aussi des filières entrepreneuriat. Ce qui fait que j'ai toujours été aussi entourée d'entrepreneurs. Donc, je savais que c'était une énorme galère, par contre, vraiment, mais que c'était possible.
Créer une entreprise,
c'est possible. Et, voilà. Et ça aussi, je pense que c'était l'énergie où on avait chacune un réseau. Perla avait le réseau culturel et en journalisme aussi. Et moi, j'avais le réseau entrepreneuriat, technique, les compétences techniques pures et dures, graphisme, développeur. Et je pense que c'est là où on a vu, dans tous les cas, une complémentarité parfaite à notre niveau pour se lancer. On avait besoin de personne à part nous et notre motivation.
C'est ça.
Et là, c'était hyper cool.
Et ça a été la bascule de passer de quelque chose d'assez informel, passion, à quelque chose de beaucoup plus structuré. Enfin, comment c'est fait concrètement? Vous avez créé l'entreprise directement?
Non.
Vous avez dû parler un peu de business aussi? L'argent qui rentre en compte?
C'est pour ça qu'en fait, on s'est dit justement que... c'est pour ça que vraiment, il y a eu cette année qui a pris du temps où on a vraiment eu besoin de cadrer. Comment est-ce qu'on voyait le projet? Qu'est-ce qu'on avait envie de construire ensemble, quel rôle on allait avoir l'une et l'autre. À titre personnel, il y avait cette idée, encore une fois, de se dire, bon, alors ça devient, ce blog devient un projet collectif, et puis, de l'autre côté, Léna, de se dire, je m'embarque dans, excuse-moi mais je pense que c'est ça, parce qu'on en a déjà parlé, je m'embarque dans un truc avec une meuf que je connais, mais que c'est pas ma veste, quoi. Je sais pas, il n'y a pas d'argent à gagner, je vais m'impliquer dans un truc où je vais pas tout de suite gagner des sous, qu'est-ce que je fais, quoi. Et donc, en fait, on s'est dit, on a toutes les deux un peu quelque chose à perdre ou à gagner, quoi, on ne savait pas trop. Et en fait, à partir de là, ça a été beaucoup de discussions, beaucoup d'initiatives, de prises de risques, d'engueulades aussi, je le dis, parce qu'en fait...
On se dispute beaucoup.
Nous n'ayons pas de table.
Léna, elle est arrivée un peu avec ce truc de... moi, j'étais dans mon petit cadre, tu vois, de... Allez, j'écris mes petits papiers, ça va intéresser. En plus, maintenant, je suis presque journaliste.
Ouais, avec les gros
c'est niveau, super, je vais informer, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai plein d'idées.
C'est ton petit bébé.
Voilà, c'est mon truc. Ouais. Et en fait, Léna est arrivée en disant, attends, t'as pas de charte graphique, t'as pas de ça, t'as pas de ci, le référencement. Elle est arrivée avec plein de contraintes. Et c'était des contraintes qui étaient... Je voyais qu'elles étaient nécessaires, utiles, intéressantes, etc. Mais en même temps, c'est vraiment là où je me suis rendu compte, en tout cas, que ça devenait un projet collectif, c'est-à-dire qu'elle, elle arrivait avec ses contraintes de stratégie digitale, développement d'entreprise, que moi, je n'avais absolument pas. Moi, j'étais juste là pour écrire des papiers, faire des reportages et publier des trucs enseignants par la MCK. Et en fait, quand elle est arrivée avec ça, ça a été... Voilà, ça n'a pas été facile, mais c'était en fait un plaisir de voir au fur et à mesure. C'est lent, mais c'est... et progressif, mais c'est vraiment gratifiant de voir les effets que le média se construisait doucement.
Franchement, j'ai pas grand chose à ajouter, à part que du coup, de l'autre côté, c'était hyper challenging et hyper stressant aussi de me dire, là quand même, j'arrive dans un projet qui a été quand même créé par quelqu'un d'autre, où il y a aussi un côté, il y a un il y a un côté émotion
et
rationnel au projet qui est totalement légitime de la part de Perla. Et ce qui a été quand même hyper agréable, je peux le dire aujourd'hui, mais prends pas trop la confiance, c'est que mine de rien, t'étais vachement ouverte quand même à ça aussi. C'est-à-dire que, ok, elle va te dire quoi, mais pourquoi, mais non, et après elle va te dire bon. Et ça, c'est hyper agréable aussi, parce que, et respectivement parlant aussi, hein, parce que moi, sur le secteur culturel, je l'ai marqué, hein, donc il y avait plein de fois aussi, elle me disait, mais pas du tout, ça se passe pas comme ça, on peut pas dire ça, on peut pas faire comme ça. Il y avait aussi le fait de cadrer, ça c'était hyper intéressant, cette phase-là où on a dû cadrer le média, où on voulait pas tomber dans quelque chose de, enfin, de lifestyle, mais ça, encore une fois, c'est pas là aussi qui avait aussi dit, voilà, moi, ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans, il y a ça qui se passe. Je veux pas qu'on soit comme ça, je veux pas non plus qu'on soit comme un blog, je veux pas qu'on soit des influenceurs, donc voilà où on se place et voilà comment ça doit fonctionner. Maintenant que tu sais la ligne que je veux mettre, yalla, on y va et t'essayes de ramener tes compétences. Ça, c'était, j'ai beaucoup appris aussi de ça, de un média, mine de rien, ça dépend aussi beaucoup de la rédac chef, parce qu'elle donne, quoi qu'il arrive, la vision et l'orientation. Sinon, bah, ça devient autre chose. Donc mais ça, c'était hyper intéressant aussi.
Et à l'inverse, puisqu'on on est au moment où on se lance des fleurs, je sais que Léna est arrivée avec ce truc de... enfin, si tu veux, elle est arrivée avec l'ambition. Parce que j'avais cette envie de ça, que ça devienne un média, hein, j'en rêvais, etc. Mais elle arrivait vraiment avec cette ambition de « c'est possible, et on va faire des sous, et on va gagner notre vie avec. Et ça va être un projet commun, et on va être des associés. » Pour moi, c'était super diffus, c'était, enfin, voilà quoi, c'était un gros truc quoi, mais elle arrivait avec ce truc de bah on peut faire de l'argent, on peut signer des contrats, on peut faire des partenariats de presse, etc. Et en fait, c'était déstabilisant, mais en même temps, ça m'a rassurée que quelqu'un que je connaissais presque pas ou peu arrive avec autant d'ambition pour le média. Et c'est aussi ce qui m'a mis en confiance de me dire, en fait, cette fille-là, elle est là, elle est pas là pour elle, pour satisfaire son ego, pour s'accaparer le truc en disant fais mon truc, non. Elle est là pour dire c'est notre média, ou elle était là pour vraiment servir le projet en tout cas. Et ça, moi, ça m'a vraiment grave mis en confiance, et à partir de là, bah ouais, on s'est mise vraiment à bosser et à développer chacune de nos parties petit à petit.
Et tous les jours on développe. Même si ça fait déjà, oui, donc c'est passé un an quand même, on a travaillé sans s'associer officiellement sur papier. Où c'était une énorme phase de test qui était primordiale aussi, parce que c'était...
Avec le recul nécessaire.
C'est un bon conseil aussi à donner pour les gens qui veulent s'associer sur des projets.
Complètement. Créer une entreprise, ça coûte cher, vraiment. On gagne moins sa vie que si on était auto-entrepreneur, ce qui était le cas pour nous, en tout cas, à l'époque. C'est différent, c'est vraiment autre chose. Ce que les meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est de bien s'entourer. S'entourer d'un très bon comptable, d'un avocat et d'amis, de... Vraiment aussi, je pense, d'expérience de vie. Mais les vraies. Pas celles qu'on voit sur LinkedIn où Michel, il a percé du jour au lendemain parce qu'il a vendu de la laine.
Il faut de l'esprit.
Voilà. Des gens qui disent la vérité, vraiment, en mode, voilà.
Comme on est en train de le faire, là, sur ce micro.
Si tu te lances là-dedans, voilà les risques. Voilà aussi, pourquoi pas les réussites s'il y en a, mais voilà ce que ça représente. Et je pense que cette année de test a aussi servi à nous de savoir aussi si on avait vraiment l'envie et qu'on avait conscience de ce qui allait aussi se passer pour pas un jour se retrouver 2 ans plus tard ah bon mais je pensais pas, etc. Et c'est là aussi du coup cette année elle a été plus que concluante parce qu'on avait eu encore plus envie d'y aller. On s'est dit ok, là va falloir qu'on y aille, va falloir qu'on trouve de l'argent, qu'on crée une société et qu'on s'impose vraiment,
qu'on développe une rédaction. Du coup
aussi,
ça a été la partie voilà, comment faire pour produire plus de contenu éditorial.
À chaque fois c'était intéressant parce que notre média s'est développé parce qu'on on a été confrontés à des problèmes. Problème numéro 1, Perla, la première année, doit partir pour un stage à Marseille. Comment on fait? On est censé développer notre média.
La crise.
Pour le moment à Paris, la rédac chef s'en va. Alors au début, on se regarde en mode, au pire, c'est sympa de parler de Marseille.
Ouais, c'est vraiment ça. Franchement, on a fait des erreurs, on a tâtonné sur plein de trucs, et on tâtonne encore sur des trucs, hein, mais vraiment, en fait, et puis aussi, voilà, ce truc de Marseille, par exemple, ça a été décisif. Parce que ça nous a imposé, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, ça nous a imposé à faire avec les contraintes. Contraintes, il y a ça. On n'a pas le choix, je dois descendre, je dois remplir mon cursus pour ça. Ok, Marseille, comment est-ce qu'on fait malgré Marseille? Comment est-ce qu'on fait malgré si ça est tel enjeu? Et en fait, vraiment, c'est pour ça qu'on dit que cette année, elle a été décisive, parce qu'elle était incertaine, mais en même temps, on a vraiment appris... à se connaître, à savoir ce dont on avait envie pour le média.
Ça s'est créé comme ça.
Et donc, sur le plan de la rédaction, Puis après, Léna parlera de la partie partenariat. Mais sur le plan de la rédaction, ça a été une année importante parce que, et ça a été l'impulsion de Léna d'ailleurs, on s'est dit, en fait, si on veut vraiment développer, si on veut qu'il y ait plus de contenu éditorial, bah, il faut qu'on s'entoure de rédacteurs et de rédactrices.
Donc là, vous avez monté
l'équipe un peu. Et là, Léna dit, on va contacter des gens, on va leur proposer s'ils ont envie d'écrire.
On va faire un appel.
On appelle à contributeurs, mais on va voir. Je dis, mais personne ne voudrait écrire,
etc. Tu voyais beaucoup plus le potentiel du média. Et toi, c'est presque surprise.
En fait, c'est par période.
Et parfois, c'est l'inverse.
Parfois, c'est l'inverse. Ouais. On se rassure vraiment. Mais à ce moment-là, je me dis, ah bon, tu penses, etc. Et puis, allez, on lance. Et en fait, bah,
ça a pris.
Et on a... voilà, aujourd'hui, on a une équipe d'une quinzaine de rédacteurs et de rédactrices.
C'est pas mal, hein.
Ouais. Qui sont, il faut le dire, c'est pour l'heure des rédacteurs et des rédactrices qui sont bénévoles. Donc,
parce qu'on a trouvé des contreparties aussi, voilà. Évidemment. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, on se pose des questions. On se dit, OK, qui accepterait d'écrire, entre guillemets, gratuitement? Qu'est-ce qui te ferait vibrer? Et donc, en fait, on se challenge aussi entre nous en se disant, bah, peut-être que si on leur propose ça, ils diront oui. Et puis en fait, tu leur dis ça et ils te disent mais
bah, grave. Et donc du coup, on a rencontré des gens qui sont souvent... les profils sont vraiment très très variés. On a des gens qui sont vétérinaires, ingénieurs, puis en grande partie aussi des gens qui sont étudiants en art, en histoire de l'art. Certains sont étudiants en journalisme. Donc en fait, des gens qui ont envie de se faire leur plume, qui ont envie d'accéder à des événements culturels en exclusivité, qui ont envie d'être publiés sur un site qui est assez lu.
De faire leur contact.
Voilà, de faire leur contact,
notamment,
etc.
Avec la rubrique sur les planches.
Qui est une rubrique de théâtre.
Exactement, par exemple, sur une rubrique de théâtre, on voit que aussi parfois les rédacteurs sont des metteurs en scène en herbe, sont des gens qui ont besoin aussi d'aller à la rencontre de ce monde culturel-là. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça peut aussi ouvrir des voies. Et si la Perle peut permettre ça, c'est encore mieux. Quoi, voilà. De savoir qu'ils peuvent rencontrer des gens, c'est génial. C'est le but aussi.
Voilà. Je veux dire. Ouais. Et donc, ça a pris. Et donc, en fait, petit à petit, on s'est constitué une rédaction. Et là, on va dire que mon statut a changé, ou en tout cas s'est déployé. C'est-à-dire que j'écrivais moins. Je relisais beaucoup de papiers, je les publiais, je calais les vernissages des uns des autres, ce qu'ils avaient envie de faire, etc. Donc je me suis formée sur le tard en management d'équipe. et puis à côté, en fait, le fait que beaucoup de rédacteurs se mettent à couvrir les expositions a fait que moi j'en faisais moins et j'ai pu me concentrer sur d'autres formats. Des formats qu'on avait envie de mettre en place sur le plan de la rédaction qui avaient beaucoup plus trait à l'actualité au sens strict, c'est-à-dire que on couvre les expositions, on couvre le théâtre, on parle de cinéma, très bien. Mais nous, notre objectif dans cette ligne éditoriale qui veut rendre l'art accessible au grand public, c'est aussi de remettre... C'est souvent une phrase qu'on dit souvent, c'est de remettre la culture au centre de la société, au sens où la culture, c'est la phrase que je reprends souvent, c'est les dernières pages du journal, on le lit à la fin, après, politique, internationale, économie, bon voilà. Nous, la culture, on considère que c'est une clé de compréhension universelle, un bien universel, et que ça peut être utile pour comprendre l'actualité dans son ensemble. Moi, je suis journaliste, et... pour comprendre l'actualité culturelle, je lis l'actualité de manière générale et vice-versa. Et donc, en fait, on a pu développer des contenus éditoriaux qui avaient vraiment trait au journalisme. Donc, des reportages, des enquêtes, des éditos, donc où on prend parti sur des sujets d'actualité, et également des nouveaux contenus pour les réseaux sociaux, notamment, et ça, c'est notre grande nouveauté cette année, des reportages vidéo.
Ok, mais c'est trop intéressant ce que vous dites sur... ce côté clé de compréhension de la société, parce qu'un des sujets, un des clichés sur la culture, c'est vraiment de dire que c'est un peu déconnecté, c'est un peu superficiel, c'est joli, mais ça apprend pas grand chose.
Mais c'est un cliché, d'une certaine manière, on récolte un peu ce qu'on sème. Moi, j'ai souvent ce regard-là de certaines institutions culturelles. Voilà, on lit les panneaux d'explication, on lit les cartels, c'est...
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est pénible, quoi. C'est pénible parce que c'est pas normal que moi qui suis une étudiante en histoire de l'art, alors je suis pas historienne, je suis pas docteur en histoire de l'art, mais j'ai quand même des bases.
J'ai tous vécu ça.
Il faut que je relise deux ou trois fois, quoi. Et c'est, ça, c'est, voilà, c'est insupportable.
C'est la fameuse intellectuelle.
C'est ça. Ouais. Et ça me rassurait aussi, moi, quand au début, je démarrais avec Verlag, mettre un expo, et qu'elle me regardait, elle me disait, mais je te rassure, moi non plus, j'en ai compris. Mmh. Ou je me disais, ok, trop bien.
Faut se le dire.
Et ça permettait aussi de se marrer et de comprendre aussi l'exposition comme on avait envie de la comprendre, parce que l'art, ça reste subjectif aussi.
En plus.
Et il faut aussi se détendre, et ça reste aussi un terrain de jeu qui est hyper intéressant pour ça. Mmh. Parce que, c'est le visiteur qui est libre aussi de ce qu'il a envie de comprendre. Mmh. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que la base, c'était, nous, notre but, c'est au moins d'essayer de rendre ça un peu plus accessible, sans vulgariser.
Et on peut croire que faire un média sur l'art, c'est forcément parler que de jolies choses, etc. Vous avez eu des sujets, des fois, qui étaient un peu plus, qui pouvaient toucher à de la polémique, enfin, sans aller dans des grands...
Bien sûr.
Voilà, et ça montre, ça casse un peu ce préjugé de dire, quand on parle d'art ou de culture... On peut parler de choses qui sont pas que des jolies fleurs en nature morte,
ouais.
qui sont des choses de la vraie vie.
Moi, je sais que j'ai toujours cette idée que aucun sujet n'est insurmontable. Qu'il y a quand même cette idée qui est assez tenace que c'est pas pour moi, je vais rien comprendre, etc. Ou ça m'intéresse pas, ce qui est possible. Alors, il y a des choses qui intéressent moins que d'autres. Mais pour moi, notamment quand il y a une polémique, je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est de plus en plus au fait d'enjeux militants, avec une jeunesse qui se veut de plus en plus engagée, etc. Donc, en fait, les polémiques et les discussions, il y en a tout le temps, régulièrement. Plutôt que de les contourner ou de dire « oui, c'est pas grave, on s'en fiche », non. On cadre la chose. Nous, parfois, on a envie de prendre parti. On dit ce qu'on pense, ou ce que le média pense, en tout cas. Et puis, parfois, juste, on fait un éclairage au regard de quelques clés de connaissances, au regard de l'actualité, au regard d'un contexte, qui va permettre à nos lecteurs de comprendre le pourquoi d'une polémique. On va prendre Myriam Khan, c'est un des derniers en date. Donc Myriam Khan, c'est une peintre qui a été récemment exposée au Palais de Tokyo. Je vous redirige vers notre édito. Nous, on a essayé, en tout cas pour cette histoire-là, pour cette polémique-là, de recadrer le pourquoi de cette actualité de une peinture fait polémique ou une peinture a été vandalisée dans un contexte. On vous explique pourquoi. Après, libre à vous de lire, de pas lire, d'être d'accord ou pas d'accord. C'est pas la question.
Et sortir ce genre de contenu, surtout, nous permet de confirmer notre positionnement en tant que média. Ça, c'était surtout hyper important cette année de faire ça. Pour ça, parce que dans la fameuse année de développement, moi j'avais l'impression que mon feed, enfin que notre feed ressemblait à uniquement un feed de photos, d'exposition, que c'était léger. Il manquait ce truc-là où c'était dans notre veine. C'était quelque chose depuis le début qu'on avait envie de mettre en avant, de dire que dans le monde de l'art, il se passe plein de choses et ça explique plein de choses sur notre société. Et c'est ultra passionnant, ou du moins, c'est sûr que ça va intéresser des gens en fait.
Rien que là! On
parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle.
Oui, on a fait une grande enquête sur l'intelligence artificielle.
Sur toute l'actualité.
Mais même rien que là, aujourd'hui, notre dernière publication, c'est le reportage sur ce qu'on a appelé populairement l'affaire Benjamin Griveaux, et qu'on a beaucoup suivi sur le plan politique, ex-porte-parole du gouvernement, ex-candidat à la mairie de Paris, qui a été piégé, si j'ose dire. Il a envoyé des vidéos à caractère sexuel à une femme qui les a données à un homme pour qu'il les publie sur un site. Or, cet homme est un artiste russe qui s'appelle Piotr Pavlansky, et il défend sa position qui est que s'il a fait ça, il a posté ça sur un site qui s'appelle Pornopolitique. Toujours est-il que lui, il défend cette posture, cette liberté artistique. Et le procès de cette semaine a été de savoir si, oui ou non, c'était de la liberté artistique ou est-ce que simplement, il y avait atteinte à la vie privée.
C'est ça. Et par rapport à l'œil marketing, moi, et parce que aussi j'ai un regard initialement non initié, moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'il y a 3 ans, quand cette affaire est tombée, moi, j'en avais évidemment entendu parler, mais je ne savais pas du tout le prisme artistique derrière. Et donc, quand Verla est allée au procès, qu'elle avait fini d'écrire son papier et que je l'ai lu, c'est là que je me suis dit, ok, c'est quand même marrant, parce que même là, le prisme artistique a été dissimulé. Enfin, moi, je n'étais pas du tout au courant qu'en fait, c'était à des fins et que c'était un couple d'artistes un peu particulier qui s'amuse à faire des coups montés et à piéger des hommes politiques. Donc, c'est intéressant. C'est littéralement le positionnement de la perle. On est un média parce qu'effectivement, on parle d'actualité et notre but, c'est parler aussi de ces sujets de société et pas uniquement des expos contemplatives ou c'est des sorties culturelles. C'est quand même de regrouper tout ça.
Et c'est pour ça d'ailleurs que on a eu ce besoin de se positionner très explicitement, à savoir que dans ce secteur culturel, on a beaucoup de possibilités pour s'intéresser à la culture. Effectivement, Léna en parlait, il y a beaucoup de médias lifestyle qui vont vous parler tantôt d'une expo, tantôt d'une pièce de théâtre, mais aussi de restos, de bars, de boîtes. Très bien. Il y a la presse culturelle qui est réservée beaucoup aux initiés, mais qui du coup n'attire que les initiés. Et puis aussi, nos nouvelles acteurs, les influenceurs et les influenceuses qui proposent un contenu qui est parfois journalistique d'une certaine manière, mais qui est vraiment incarné et qui est rattaché à une seule et même personne. Nous, on est prise entre plusieurs feux et on a décidé vraiment de s'imposer comme un média en ligne.
En s'imprégnant aussi de tout ça.
En s'imprégnant de tout ça.
C'est-à-dire que
mais avec une ligne très, très cernée.
Voilà. C'est ça, on ne les considère pas comme des concurrents. Alors, à proprement parler, la définition, ça l'est. Mais au contraire, on pense que dans cet écosystème culturel qui est si particulier, au contraire, je trouve d'ailleurs qu'il y a une très bonne ambiance. On adore aller à des vernissages et participer parce que je trouve que tous, on avance et notre but à chacun, c'est de donner une information et d'essayer de démocratiser aussi ce secteur-là. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait des constats et ça nous permet à chaque fois de se développer et d'aller ailleurs et de développer ce fameux business model qui a été... très compliqué à élaborer et aujourd'hui je crois qu'on verra, mais je crois qu'on a à peu près trouvé un moyen
de fonctionner
et ça c'est passionnant. C'est passionnant.
Et ça, on pourra en parler si vous voulez de cette partie un peu plus business. Vous parlez de comment vous vous positionnez parmi tout ce qui existe déjà. C'est vrai que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, de médias qui sont des médias qui passent par les réseaux sociaux. Et vous avez ce côté presse écrite quand même qui vous permet de beaucoup développer. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée parce que sur des cas assez polémiques comme ceux qu'on a cités, souvent, maintenant, on va s'informer avec des posts carrousel qui ne permettent pas d'avoir une vision 360 de la situation. Et ça, c'est vraiment bien, en fait, qu'il y ait des personnes comme vous qui font vivre la presse écrite et des articles plus ou moins longs aussi.
Moi, je sais que je suis très attachée à la presse écrite. Ou en tout cas au contenu écrit, parce que je trouve que mettre les mots sur quelque chose, c'est d'une certaine manière la preuve. Alors, il y a des très très bons journalistes, enfin, je respecte vraiment la télévision et la radio, je me suis spécialisée en radio, donc voilà. Mais sur la presse écrite, ce qui est bien, c'est qu'on sait que la personne s'est installée devant son ordinateur et qu'elle a réfléchi à ce qu'elle allait écrire, comment elle allait l'expliquer, comment elle allait présenter les faits, comment elle allait présenter les informations pour que l'info soit communiquée, l'actualité soit communiquée, mais que l'angle aussi soit respecté, que les mots soient choisis, et cette attention que le journaliste a mis dans l'article est d'une certaine manière une garantie pour le lecteur que ce qu'il va lire est fiable. Et de surcroît pour la culture.
Et oui, parce qu'il y a aussi cette déontologie, c'est ça, de la profession journalistique quand même. Où maintenant la barrière est floue entre qui est journaliste, qui ne l'est pas aussi. Ce qui fait qu'on ne sait jamais trop si on peut avoir confiance en le contenu que l'on lit. Vous avez des principes, des choses qui vous guident.
Ça a été des vraies questions quand on a vraiment essayé de cadrer le projet, de se dire est-ce qu'on tombe là-dedans, est-ce qu'on tombe dans le on ne sait pas trop, et comme ça peut-être qu'on pourra plus se faire des sous. Et les articles payants, c'est pas grave, ça sera la rédac qui vont les écrire. Et on s'est vraiment posé ces questions-là, surtout qu'en se renseignant aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des rédactions qui n'étaient pas forcément très clean.
Et qui n'avaient pas de scrupules à faire ça.
Qui n'avaient pas de scrupules, parce que y a pour le coup une vérité, un média pour qu'il soit rentable, c'est extrêmement compliqué, vraiment. Il y a des médias qui, et même des entreprises de façon générale, qui ne seront jamais rentables, mais qui fonctionnent quand même, ça n'empêche pas qu'une entreprise fonctionne. Donc, ça a été vraiment un vrai dilemme. Et on s'est mis d'accord. On s'est dit qu'on allait être transparente et honnête avec ce qu'on avait envie de faire et qu'on allait jouer le jeu, de se dire non. Et puis, là, c'était aussi hors de question pour elle.
Oui, c'était sûr. Moi, j'avais envie d'être journaliste. Donc, j'avais pas envie qu'on me paye pour couvrir tel sujet ou tel sujet. J'avais pas envie d'écrire ce que... je respecte le milieu de la communication, mais j'avais pas du tout envie de tomber dans la communication. J'avais envie de parler des faits.
Et pour pas que le média ne devienne que de ça aussi.
Oui, voilà.
La qualité.
Voilà, et puis du coup, ça posait vraiment un cadre déontologique entre Léna et moi, c'est-à-dire que sa partie à l'ENA est très délimitée.
On a vraiment, c'est pas les mêmes responsabilités.
Le développement d'entreprise, c'est les partenariats presse, et c'est elle qui a le lead complètement sur ça. Mmh. Moi,
sur la comptabilité,
tout ça, moi je suis, on va dire, exécutante. On se rendait compte parce qu'on est associée, mais en tout cas.
Sur la partie partenariat, elle a une figure d'exécutante.
Voilà, j'ai une figure d'exécutante.
Par exemple, ok, Berla, il se passe ça, elle est quand même informée parce que c'est quand même la cofondatrice, voilà. Et qu'elle est quand même. voilà, la société lui appartient aussi. Mais c'est parfois quand j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un pigiste parce qu'elle a les contacts, etc. Elle m'a dit, ok, très bien, je t'envoie un pigiste,
voilà.
Spécialisé.
Je vais lui suggérer des angles pour aborder ça. Mais ouais. C'est vraiment elle qui a le lead sur ça. Et sur la partie rédaction, c'est, voilà, Léna, on va couvrir ça. Cette semaine, je dis, ah, il y a le procès, justement, on disait, de l'artiste russe, Piotr Pavlansky, je vais le couvrir. Léna, elle n'a pas son mot à dire de, est-ce qu'on a intérêt à le faire, est-ce que, sur le plan humain, j'y vais.
Et même si je n'aime pas, hein, c'est voilà. Ok, ce qui est aussi agréable, parfois, hein, de se dire...
Il y a un petit challenge, je dois lui dire pourquoi c'est intéressant, ou je dois... Alors, c'est ça qui est très intéressant dans notre association. C'est qu'on essaie tout le temps de se convaincre. Et ça, c'est... Alors, c'est fatigant parfois, mais c'est aussi super intéressant parce que elle va me dire, oh, j'ai trouvé ça nul et tout. Je dis, non, mais regarde, c'était bien, c'est intéressant pour ça, ça. Cool. Et en fait, c'est stimulant comme association.
C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des débats, c'est de rencontrer des gens qui sont d'accord, pas d'accord, et c'est pas grave. Enfin, c'est jamais vital.
C'est pas forcément facile de travailler à deux sur un projet, de voir son bébé grandir, et en fait c'est plus trop le même métier que c'était à la base. Donc merci beaucoup d'avoir parlé de ça avec beaucoup de transparence. Et toi, du coup, Perla, à force de côtoyer Léna, est-ce que tu as commencé un peu plus à t'imprégner aussi de cette partie business, parce que vous n'avez pas non plus étudié dans les mêmes environnements. Toi, tu disais que tu étais entourée d'entrepreneurs, limite. Tandis que toi, à l'École du Loup, je crois qu'on n'a pas beaucoup
d'entrepreneurs. Disons que je m'y intéresse pour mon projet. Voilà. Je m'y intéresse parce que c'est mon projet et que ça me fait plaisir de voir mon bébé, notre bébé, grossir. Donc on partage les victoires et je suis super contente. Par contre, à titre personnel, c'est pas du tout un domaine qui m'intéresse, en fait. Moi, je suis vraiment journaliste et j'aime informer les gens. Et donc, du coup, c'est vraiment cet aspect-là du projet qui m'intéresse vraiment. Mais je suis heureuse que Léna me partage cet aspect-là parce que, voilà, elle m'explique comment ça fonctionne, comment on entre en contact avec des possibles partenaires, comment on lâche pas l'affaire, comment on essaye de vendre au mieux les choses, etc. Donc je trouve ça intéressant, mais c'est pour ça que j'explique vraiment qu'elle a le lead. C'est que, voilà, moi je trouverais jamais aucun intérêt à gérer cette partie-là, même sur le plan plus perso. À côté de la perle, moi je suis journaliste pigiste et je suis très heureuse justement dans cette partie-là de ma vie, de pouvoir retirer la casquette entrepreneuse pour pouvoir juste me concentrer sur les papiers ou les choses qu'on me donnait à faire. Et c'est un équilibre qui me plaît beaucoup. Ouais.
Oui, parce que quand le développement commercial entre en jeu, ça devient un autre métier presque, donc c'est trop bien cette complémentarité. Et puis ça change le regard qu'on porte sur ce qu'on fait, et alors que toi tu pars vraiment avec quelque chose qui est juste de la passion.
C'est vraiment ça. Très pur. Et c'est ça, et je suis chiante avec cette, je sais parce que parfois je le vois, je suis vraiment soucieuse, parfois trop pointilleuse sur le fait de garantir un cadre vraiment éthique. Donc en fait, quand quelque chose passe au partenariat presse, c'est partenariat presse et c'est Léna qui gère. Quand quelque chose reste à la partie éditoriale, ça reste à la partie éditoriale.
Et c'est pas plus mal parce qu'en fait on n'a pas du tout les mêmes interlocuteurs. C'est vrai que moi, du coup, c'est une partie que je vais gérer seule. Après, je m'entoure beaucoup. Hein. Je suis une personne qui demande extrêmement conseil. J'ai pas du tout honte de dire que seule, c'est toujours plus compliqué. C'est toujours bien de savoir faire confiance et d'y aller et d'oser. Bon, je suis quand même relativement seule. Mais c'est quand même hyper challenging aussi d'avoir au téléphone les personnes qui sont en charge des institutions et qui sont justement à cette partie business-là, parce que c'est pas du tout les mêmes. Et c'est aussi intéressant parce que parfois, par là, elle me dit ah, c'est marrant, mais t'étais en rendez-vous avec, je dis n'importe quoi, le théâtre du Palais Royal. Et en fait, évidemment, moi j'étais avec le théâtre du Palais Royal, mais j'étais avec la responsable communication, alors que par là, elle va échanger avec un attaché de presse. Donc, elle va garder aussi, je pense, des échanges plus purs, sans savoir aussi parfois les choses un peu plus vexantes qui vont se passer sur la partie com, où c'est vraiment factuel. Hein, faut leur donner nos chiffres, faut plaire, faut vendre quelque chose d'une façon qui est peut-être moins jolie et déontologique qu'à la partie édito. Donc c'est aussi intéressant et ça permet aussi parfois de se préserver chacune de nos stress qui sont hyper différents au sein de la société. On n'a pas du tout les mêmes angoisses.
J'ajouterais que Léna, elle va pour justement parfois se prendre des claques business.
Je l'appelle,
etc. Et moi, à l'inverse, je me prends des claques qui sont différentes. C'est-à-dire que parfois, quand j'ai besoin d'avoir des sources, quand j'ai besoin d'appeler les gens, quand j'ai besoin d'avoir telle parole de tel truc, il faut lui tenir la jambe, rappeler les gens, poser des questions qui fâchent. Parce que dans la culture, justement, tu le disais tout à l'heure, on est souvent habitué à ce truc de « Oh, c'est agréable, la culture, c'est contemplatif, c'est sympa. » Et puis parfois, on va poser des questions qui sont pas du tout agréables, qui sont pas du tout, qui sont pas du tout politiquement correctes. En disant, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous... Et en fait, ça plaît pas, mais on le fait quand même. Donc, on est confrontés toutes les deux à des claques différentes.
C'est ça.
Et on se les raconte, et du coup, on se marre.
Et on a aussi plein de casquettes différentes, parce qu'on a quand même... On fait tout, toute seule. Et c'était aussi hyper intéressant de partager cette stratégie d'entreprise où Berla m'a fait confiance, où initialement, je lui dis, voilà, faut qu'on crée une entreprise parce qu'on va devoir faire une levée de fonds. Et que si on fait une levée de fonds, cet argent, il va arriver sur notre compte bancaire personnel, donc c'est pas possible. Faut qu'on crée une structure, faut y aller. Et ça, c'était hyper agréable aussi, ce qui a permis aussi de gagner plus en crédibilité. Aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Il nous reste encore plein de choses à faire. On est sans arrêt en développement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis hyper heureuse de travailler aujourd'hui sur ce projet-là. Et quoi qu'il arrive, que ça marche ou pas, je pense que ça aurait été une aventure qui est vraiment hyper intéressante et je suis tombée amoureuse du secteur culturel. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas challengée, il n'y a pas un jour où je me disais « mais qu'est-ce que je fous là ? Je pourrais très bien être dans mon métro boulot-dodo. » Et donc franchement, ça pour le coup, c'est... Heureusement, je pense qu'on s'est rencontrés, c'est vraiment une belle histoire et puis on va voir où ça va nous mener, quoi.
Et c'est quoi justement votre vision là, si vous pouvez rêver et tout, de la perdre dans 10 ans, 15 ans? C'est quoi votre
rêve? Moi je veux une rédaction. Je veux des bureaux avec une rédaction, avec une salle de rédaction, avec des conférences de rédaction et des journalistes qui me proposent des sujets, qui vont sur le terrain, qui écrivent des papiers et qui tournent des reportages et qui font des podcasts. Voilà, je veux que La Perle soit la rédaction culturelle de renom.
C'est ça.
Française.
Moi, presque. Ouais.
Franchement, on l'a manifesté là à ce micro.
C'est ça. Moi, mon rêve, c'est qu'on devienne un média de référence pure player, pour utiliser un peu des mots bullshit marketing. Vraiment de référence, c'est-à-dire avoir réussi ce pari-là, de se dire que nous, vraiment, pour le coup, initialement, c'est vraiment un projet passion. Nos envies, nos objectifs, c'est vraiment parce qu'on a envie que ça fonctionne, parce qu'on trouve que replacer la culture au centre de la société, c'est une nécessité. Et donc ça sera surtout être à le bout de cette aventure et de dire qu'on a réussi le pari en fait.
Et qu'est-ce qui donne envie à vos partenaires de vous suivre quand tu arrives avec ton projet qui est quand même encore un relativement jeune projet? Qu'est-ce qui fait qu'ils vous voient toute jeune arriver avec votre projet et ils disent bah ok, on se lance à vos côtés, on vous suit?
Et c'est hyper intéressant parce que mine de rien, en pratiquement 3 ans, j'ai eu le temps d'analyser pas mal aussi comment le secteur culturel il a évolué depuis le Covid. Et il y a vraiment une différence entre l'année dernière et même cette année. On sent quand même qu'en interne, ils ont envie de se développer, ils ont envie de dépoussiérer aussi un petit peu leur fonctionnement qui sont très ancrés depuis des années et ils fonctionnent avec les mêmes partenaires historiques et c'est comme ça et on l'entend. Ce qui peut plaire, c'est que on a réussi à observer ce marché et surtout on a observé les visiteurs, les lecteurs, ces jeunes qui ont du mal à s'y intéresser et qui ont du mal à passer le cap de la sortie culturelle. Donc quand nous on arrive en leur disant voilà, nous les 18-35 on sait, enfin c'est notre cœur de cible, enfin surtout les 25-35, ils nous lisent, on sait comment les intéresser, vous votre population elle est vieillissante, faites-nous confiance et puis on verra, au pire c'est pas grave.
Vous allez sauver les musées.
Voilà, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de les rassurer et de leur dire c'est une opération qui arrivera à un moment et justement, on va en tirer des bilans. Le monde, il est en train de se transformer, tout est en train d'évoluer, mais limite par mois. Ils ont la possibilité de devenir des acteurs pour que ça change. Nous, en tout cas, on a envie de les convaincre pour qu'ils puissent participer avec nous. Donc, il y en a qui nous font confiance pour le moment et c'est très bien et on leur merci à eux. Parce qu'ils seront aux prémices, je pense.
Et je dirais, parce que du coup, ça m'a donné une idée, si justement on devait convaincre quelqu'un, je dirais, la culture vous concerne, lisez ce qui vous concerne, tout simplement.
Ouais, elle du coup partie lectorat et moi partie partenariat avec
toi. Il y a vraiment ce truc là, voilà.
Lisez ce qui vous concerne, la culture. On croit que la culture c'est réservé effectivement à un cercle d'initiés, de connaisseurs, absolument pas. Elle est riche, complexe, comme tout. Et à ce titre, bah, vous trouverez des choses qui vous concernent et qui vous intéressent sur la perle.
C'est ça. Et à la partie partenariat, c'est ça. C'est, en fait, nous, on travaille vraiment main dans la main avec les institutions. Donc, c'est permettre cette transformation et cette évolution, c'est ensemble. Ça ne marchera pas si on le fait tout seul de notre côté.
Et donc, avant de vous laisser, on va passer aux questions signatures. Première question, comment faire du monde de l'art un endroit meilleur ?
Faire en sorte, et en tout cas on essaye d'y contribuer, que la culture se prenne moins au sérieux.
Je te rejoins là-dessus.
Complètement d'accord avec mon associé.
Rien à ajouter. Deuxième question, quel a été votre meilleur souvenir artistique ? Ça peut être une aventure que vous avez vécue avec la perle ou en dehors de la perle.
Moi, pour le coup, ça va être une expérience personnelle. Bah ouais, voilà.
Je m'en fous, j'ai un truc trop bien après.
Ok. Avec moi, quoi ?
Ouais.
Ah, cool. Ah, mais bah, voilà, très bien, raconte celui-là, voilà, pour un truc perso. J'ai fait une formation de théâtre l'année dernière.
Ah oui.
En parallèle de cette fameuse année qui a été hyper décisive pour la perle. Et donc, je pense que ça a été une année qui m'a fait énormément de bien, en tout cas, le théâtre grâce à ça. Ça m'a permis aussi de faire une pause avec les responsabilités de la perle et toutes les pressions qu'on pouvait avoir, surtout l'année dernière où c'était une année particulièrement stressante. Donc, mon plus beau souvenir artistique, c'est ma représentation de fin d'année, voilà, où je suis montée sur scène, et ce qui est aussi un peu une consécration.
C'est vrai.
Et t'as joué quoi ?
J'ai joué Coltès. C'était
Dans la solitude des champs de coton.
Dans la solitude des champs de coton. Heureusement que c'est vraiment ma pote qui se souvient de tout ce que je raconte.
Un blackout.
Ah ouais, j'ai eu un trou horrible. Et ouais, non, c'était vraiment trop bien. Et c'était la concrétisation aussi, je pense, de ce rêve-là. Et que c'est possible aussi de peut-être essayer de mélanger le pro et le perso et de réussir aussi à essayer de faire une double carrière. Moi, j'y crois en tout cas, j'espère.
On te le souhaite. Et alors toi, c'est quoi ton souvenir ?
Alors moi, c'est un souvenir qui est important parce que c'est à la fois symptomatique de la manière dont je et on voit la culture, c'est-à-dire vraiment imprégné dans le reste de l'actualité. Et en même temps, je pense que c'est ce qui a signé notre association. Ouais. C'est le jour où on a décidé, donc on était au moment justement de, c'était au moment de la crise sanitaire et les intermittents du spectacle faisaient grève et certains d'ailleurs occupaient des espaces culturels, beaucoup de théâtres à travers la France, dont le théâtre de l'Odéon. Et donc pendant plusieurs jours, il y a plusieurs intermittents du spectacle qui ont occupé le théâtre de l'Odéon. Donc ils ont, le théâtre était fermé, ils ont investi les lieux, ils ont dormi dedans, ils dormaient dans le théâtre, ils vivaient dans le théâtre, ils mangeaient dans le théâtre. Et on a trouvé ça trop intéressant, donc on est arrivé en leur disant
on veut venir.
Ils disent vous avez pas de carte de presse, vous rentrez pas. On dit bon comment on va faire si on n'a pas de carte de presse ? Je fais, il faut que vous preniez part à la lutte.
Il faut me participer, quoi.
Allez, il y a là, on
vous
y va.
Vous inscrivez sur les dates, ces trucs.
Ils nous ont rappelé une semaine plus tard. Est-ce que vous voulez venir ? On y va. Léna était en béquille. Elle s'était fait une entorse.
Mais une entorse stade 3, c'est-à-dire que...
un enfer.
Je te montrerai une photo. Une cheville. Mais pas une cheville.
Photo sur Instagram.
Un arrêt de bus. C'était terrible. Oui, on la mettra.
Et là, on se trouve un dimanche à 8h du matin avec les sacs à dos, genre comme si on partait au camping. Allez, c'est bon, vous allez dormir dans le Odéon. Et donc là, on se retrouve infiltré, c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas, on prend part à ce mouvement social là de grève des intermittents, de révolte des intermittents. Fallait participer aux tâches, fallait faire à manger, fallait débarrasser et fallait surtout monter la garde parce que comme le lieu était occupé, les flics pouvaient arriver à tout moment. Et donc nous, on disait ok, on va prendre part au truc complètement. On a dormi dans les bassines du théâtre. Donc on a dormi dans le théâtre, mal dormi d'ailleurs.
Oui, parce que Perla s'était fait voler ce matelas.
Ah oui, ça va.
Ah, les dramas du théâtre.
Puis, au bout de... Et puis en fait, à 5h du matin, c'était notre tour de garde.
Notre tour, quoi.
Et allez, vous devez. Et je vois Léna en béquille comme ça. Et je fais, ça va. Elle me dit, non, ça va pas, ça va pas. Et en fait, là, je me suis dit, c'est mon associé.
T'as pas été dispensée avec ta
non, non, absolument
et
pas.
C'était un peu le moment où jamais, c'est-à-dire qu'on pensait jamais pouvoir rentrer là-dedans. On a pensé que c'était très compliqué. Et en fait, Perla avait réussi surtout à sympathiser avec l'un des occupants. Il nous a vraiment envoyé un message en mode « Ok, je pense pouvoir vous faire rentrer demain. » Donc on n'avait pas le choix. Et à ce moment-là, je la regarde, je me dis, je vais pas la laisser aller toute seule là-dedans. Enfin, c'est pas possible. Ouais, donc, il y avait un peu ce truc-là de, allez, on va y aller, on y va ensemble, et puis on verra bien. Et c'était franchement hilarant. Ça a été 2 jours d'occupation. On devait rester 2 nuits.
Mais c'est hilarant. C'était aussi intéressant d'écouter les revendications, etc. Mmh. Mais bien pour sûr. Nous...
C'est un souvenir artistique fort.
Nous, mmh. deux jeunes entrepreneuses, moi, jeune journaliste, c'était vraiment fort. Et c'est un tournant pour le projet, parce qu'on s'est dit, mais en fait, si on...
On, voilà, a si on, a, aussi.
On s'est imprégné toutes les deux dans ça et on s'est mis dans les galères. Mmh. Ça veut dire que, allez, on peut faire le reste des galères ensemble.
C'est intéressant comme team building.
Ah ouais. Aller dans une ZAD. Et participer au projet.
Le conseil pour trouver son associé.
Exactement. Bon.
Et est-ce que vous pouvez parler d'un objet, ça peut être une œuvre d'art, un gris-gris qui vous accompagne au quotidien?
Moi, c'est mes critériums.
Ouais.
J'en ai toujours avec moi, j'écris toujours avec, ça me sert à prendre des notes, ça me sert, j'écris au critérium et voilà, c'est mon outil de la perle et c'est mon outil de journalisme majeur.
Ouais, donc si jamais on a besoin d'un critérium, on sait à qui demander.
Hyper boring, parce que moi je vais répondre à mon agenda.
Ah ouais,
vraiment, on est hyper boring, les crayons et l'agenda. Franchement, j'ai hyper réfléchi. Je voulais soit dire un truc de mes voyages, parce que je suis une fille qui garde tout. Père la peur de témoigner, je garde tous mes tickets d'expo, de théâtre et tout le temps, de tout. Donc j'ai voyagé pendant pratiquement 2 ans et demi. Je ne l'ai pas raconté parce que ça sera un autre podcast. Donc je garde tout. Je suis très souvenir sur des trucs bizarres comme ça, qui n'ont pas forcément de valeur. Donc j'ai toujours dans mon sac, j'ai toujours des petits trucs de mes voyages. Et sinon, mon agenda, papier. J'ai un petit agenda hyper important parce que j'aime trop laisser des traces de ce que je fais et aussi parce que j'ai besoin de m'organiser comme ça. Et le téléphone, j'adore ça, je suis hyper addict, mais l'agenda papier, c'est valeur sûre.
Et qu'est-ce que tu fais de ton agenda quand il est terminé?
Parce que ça, c'est un peu dur.
Garde, j'ai regardé la bibliothèque.
Ah ouais? Je garde tous mes cahiers,
Mais ça s'accumule tellement que...
Ouais. Je suis
acheté. J'aurai une montagne d'agenda à la fin de ma vie.
C'est ça.
Trop bien. Bravo pour le chemin parcouru. Et merci beaucoup pour cette super interview.
Merci à toi.
Merci à toi.
Plein de belles énergies. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast. Je le demande rarement, mais ça peut m'aider à continuer de faire vivre le podcast. Vous pouvez suivre les actualités de La Perle sur leur compte Instagram et lire leurs articles sur leur site internet laperle-paris.com. Merci à Formica pour le générique et à Kylian Goujon pour le mixage audio. Je vous souhaite un bel été et vous dis à bientôt pour de prochaines interviews.